When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Deux Chavannes cherche copains. Mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Alors, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. De Chavannes cherche copains. Des copains. De Chavannes cherche copains. A tout de suite, les amis.
Vous vous appelez Flora Gebali et vous avez écrit le syndrome de la fourmi, voir et dépasser les barrières mentales de l'inaction écologique. Parce que chez l'Observatoire, on est dans l'inaction écologique totale.
On n'est pas dans l'inaction écologique totale. Est-ce que vous savez que si on dessine un cercle autour d'une fourmi, elle n'arrive pas à en sortir? Pourquoi? Parce qu'elle pense que notre cercle est un mur. Nous, les humains, on fait pareil avec la transition écologique. On a un modèle que j'ai imagé avec un cercle. On est dans notre modèle, donc c'est notre modèle de croissance, de développement économique, notre modèle politique, institutionnel, démocratique.
Mais qui devrait être feu notre modèle, sauf qu'on n'en sort pas.
Voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas dépasser ce cercle. Parce que, et c'est la thèse de ce livre, on a des barrières mentales. C'est pas qu'on peut pas dépasser le cercle parce qu'il est en béton. Puisqu'en réalité, il est fait par les hommes. C'est quoi? C'est des traités, c'est des lois, c'est l'Union européenne, c'est l'ONU. On sait le changer si on veut. C'est pas un mur en béton. Vous savez, quand le mur de Berlin a été cassé, il a fallu 5 heures. C'est rien de casser un mur. Par contre, le chemin mental... Non mais le chemin... Oui. En 5 heures,
oui,
le mur était cassé.
En une nuit. Encore,
voilà. En une nuit. Le chemin mental d'arriver à se dire on va réunir les civilisations...
Des décennies.
Il a pris des décennies. Mmh. Et on est exactement confrontés à la même chose. Et moi, le pari que je prends avec ce livre, il est assez optimiste. Moi, j'ai la conviction que si on est capable de dépasser le cercle, on est capable de faire la transition écologique. Et on est capable de se mettre en marche très vite. Pourquoi j'ai cette conviction? Parce que j'ai un exemple. En mars 2020, il y a une pandémie mondiale, le Covid. On en a parlé.
Non.
Vous êtes au courant.
Non.
Et là... on décide conjointement, en France, mais aussi à peu près partout dans le monde, d'enfermer les gens chez eux. Hmm. Est-ce que ce n'est pas radical comme mesure?
Un poil.
Est-ce que ce n'est pas...
Efficace.
Efficace, bien sûr. Mais surtout, est-ce que si en 2019, on vous avait dit « l'an prochain, on va enfermer les gens chez eux », vous m'auriez cru? Jamais. Jamais.
Non, jamais. Non.
On n'aurait jamais imaginé que les peuples soient aussi résilients. Même la veille, même début mars, quand on disait le Covid va s'arrêter aux frontières de l'Italie, mais on était complètement fous.
Ouais.
Et moi, j'ai cette conviction avec la transition écologique, c'est que pour le moment, on est dans un cercle, on est dans un espace qui est dangereux, vous le savez, j'ai pas besoin de réalerter là-dessus. Par contre, si on est capable de le dépasser, et je pense que c'est le prochain combat, et que c'est un combat qui est en fait mental...
Non, c'est pas le prochain combat.
Enfin, c'est le combat actuel, en tout cas. C'est... Non, mais c'est la prochaine victoire, j'espère.
Voilà.
Si on arrive à dépasser ce cercle, alors on est capable de faire une transition écologique qui fonctionne et on est capable de le faire assez vite. Pourquoi? Parce qu'on a en fait des États forts qui sont capables de prendre des mesures coercitives. On l'a vu avec cet exemple du Covid. Pourquoi? Parce qu'on a des technologies et on a des moyens de communiquer et de s'informer extrêmement rapide.
Oui, mais on a convaincu les gens. La plupart, on va pas voir les antivax, mais on a convaincu les gens que c'était dangereux et grave. J'ai le sentiment aujourd'hui, malheureux, que... les gens, la gravité écologique... je ne sais pas quel est le pourcentage de gens qui sont convaincus qu'on est dans une situation absolument catastrophique.
Il y a plusieurs statistiques disponibles. On considère à peu près dans le monde à un tiers les climato-sceptiques. Donc il y a un tiers de la population mondiale qui n'y croit pas.
OK, donc ça fait deux tiers qui y croient.
Mais il y a aussi 10% des Français qui pensent que la Terre est plate, si vous voulez.
Mmh. C'est vrai, il y a 10% des Français qui pensent que la Terre est plate.
Il n'y aura jamais 100% de la population qui sera convaincue par l'urgence et l'action écologique, mais il y avait aussi les antivax. Enfin, il y a toujours une frange de la population, et c'est bien normal, qui est en désaccord.
10%,
voilà.
Genre.
En fait, en revanche, il y a 80% des Français qui se déclarent prêts à faire des changements assez structurants dans leur vie pour des enjeux écologiques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui assistent quand même aux sécheresses autour de chez eux, qui assistent aux canicules, qui voient la nature changer, qui voient la petite rivière.
Mais moi, je la vois là, j'ai vu une femme sur Twitter cette semaine qui était dans une petite rivière, sèche comme un coup de trique, en train de dire, on n'a plus d'eau au village, ça fait un an, c'est dramatique.
Et sur la biodiversité, c'est pareil, on voit beaucoup les choses changer.
Les espèces qui disparaissent aussi.
Et je pense qu'à côté de ça, on voit bien d'un autre côté, qu'on n'aspire pas à des modes de vie dystopiques en ville, dans des environnements hyper pollués où on reste à l'intérieur.
Pardonnez-moi, une petite faiblesse sur la dystopie.
La dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. Okay. C'est en gros l'enfer, quoi. Enfin, c'est...
Ok. Vous dites, on est tout à fait capable de... On a pété le mur de Berlin. Super. Les solutions, c'est quoi aujourd'hui? Parce qu'à part dire oui, il faut convaincre les gens, oui.
Si c'était facile, simple et évident.
Ce serait pas drôle déjà.
Ça se saurait et j'aurais déjà un prix Nobel. Donc, c'est pas le cas.
Non, mais je crois que tout est possible, vous dites.
Je crois que tout est possible et je crois que les solutions existent. Si je peux prendre 10 secondes pour développer cette idée-là, c'est que justement, les solutions, elles sont complexes. Pourquoi? Parce qu'on doit créer une civilisation écologique. On doit changer de modèle. Quand je vous dis qu'on doit faire sortir la fourmi du cercle, c'est aussi vous dire qu'on va avoir besoin d'un autre cercle. On va quand même avoir besoin d'un autre cadre. Et donc, si on veut que ce cadre soit apaisé, démocratique et pacifique, on va avoir besoin de le construire. Vous savez, les bâtisseurs de civilisation chrétienne, ils déposaient, les rois de France par exemple, ils déposaient la première pierre d'une cathédrale en sachant très bien que la cathédrale serait construite un siècle, deux siècles plus tard.
Et donc, ils
seraient finis. Et donc, eux, ils seraient morts depuis bien longtemps. Et donc, ils ne verraient jamais la cathédrale construite. Mais ils le faisaient quand même, parce que pour eux, ils participaient à un beaucoup plus grand projet qu'eux-mêmes, qui était de bâtir une civilisation.
Et qu'aujourd'hui, on n'a plus ça.
Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se projeter dans une civilisation. On parlait tout à l'heure de patriotisme. Vous voyez, les valeurs républicaines, c'est pas trop à la mode, quoi. Et moi, ce que j'essaye de proposer, c'est de bâtir la civilisation écologique. Et en fait, quand on regarde de près, il y a déjà beaucoup de Français qui sont rentrés dans cette civilisation-là. Et bonne nouvelle, on a les moyens d'aller beaucoup plus vite. Regardez la révolution MeToo. En quelques heures et quelques tweets, vous avez quand même une révolution mondiale qui apparaît. Regardez Greta Thunberg, une adolescente de 16 ans, a fait le tour du monde et a une voix qui a porté dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, pour créer cette civilisation Camille Etienne, notre Greta Thunberg à nous, très utile aussi, bien sûr.
Complètement, elle s'est fait défoncer là. On est là mi-mai, vous et moi, et elle s'est fait défoncer par tous les réseaux sociaux, par y compris une partie de la place politique, la classe politique, etc., en disant qu'elle parlait, qu'elle savait pas de quoi elle parlait, que c'était une petite arrogante, etc. J'ai trouvé ça honteux, en fait.
Vous savez, quand on est femme jeune et qu'on s'exprime, en général, on est la cible de harcèlement.
Tu penses vraiment que si c'était un garçon, ça serait pas pareil?
Il y a une étude qui a été faite par une association qui lutte contre la haine en ligne, qui a montré que le cas de cyberharcèlement le plus accentué, c'est la femme politique clivante.
Incroyable.
Donc Camille...
Mais là, elle a sorti un bouquin, elle a fait le Camille, tour de Popote. France Inter, machin, France 5, C'est à vous, c'est tout. Et elle se fait défoncer alors que... Moi, je dis heureusement qu'elle est là.
Et je disais que les entreprises qui décident de travailler avec nous...
C'est qu'ils sont prêts à apprendre.
C'est qu'ils sont prêts à avancer.
D'accord.
Voilà. Donc, ça limite le champ, évidemment.
Vous, c'est quoi votre entreprise, alors?
Mon entreprise, elle s'appelle Coalition. Je l'ai créée il y a presque 4 ans. Et elle a pour but d'accélérer la transition écologique. En fait, ce que je me suis dit, c'est que moi, je suis assez optimiste par nature. Et je constatais sur le terrain qu'il existait énormément de solutions.
Le terrain de quoi?
À nos problèmes. Le terrain français, que j'ai observé avec la politique notamment, puisqu'on allait beaucoup dans des usines, dans des associations, dans des collectivités. On faisait beaucoup de terrain.
Vous avez un papa qui fait de la politique aussi, hein?
J'ai un papa qui fait pas de politique de manière professionnelle, mais qui a été militant quand il était jeune.
Okay.
Et donc, qui m'a bercée de récits... politisé. Par exemple, sa nuit du 10 mai 81, ouais. Il me l'a raconté, je sais pas, peut-être 200 fois.
Ouais, j'imagine.
Donc oui, c'est des récits familiaux qui font que...
C'est l'élection de François Mitterrand, on va quand même
oui,
le préciser.
Oui, on va quand même le
pour
préciser.
Pour les jeunes, s'il y en a qui nous écoutent, ouais.
Ça fait que dans ma famille, oui, il y a une fibre militante assez forte. Mais d'ailleurs, c'est pas le seul. Lui, c'est le seul à avoir été adhérent à un parti politique à un moment dans sa vie. C'est pas le seul, par contre, de ma famille à être engagé, parce que j'ai aussi une grand-mère maternelle qui est immigrée de Tunisie pour faire mai 68 et qui est une grande féministe.
Qui est venue ici pour faire mai 68
Pour aussi une indépendance. Ouais. Elle est venue un peu avant, mais elle voulait aussi de la liberté, ouais. et de l'indépendance, la liberté des femmes. Et je pense que j'ai aussi été bercée par ces récits émancipateurs-là, donc...
Super.
Donc oui, j'ai une fibre militante familiale. Mais c'est vrai que tout le monde est assez engagé dans ce qu'il fait, même
et
si c'est
mère,
pas
fait quoi
de la politique au sens strict. Ma mère, elle est journaliste et productrice.
Okay.
Elle est assez aussi engagée dans les causes qu'elle porte.
Okay. Et vous allez mener votre vie là-dessus, vous pensez ?
Je vais.
Mener votre vie là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça va être le combat de toute votre vie, les 30 ans.
De quoi ?
L'écologie.
Quel combat ? L'écologie ?
Oui.
Bah moi, le combat politique, c'est le combat de ma vie. Et je pense que l'écologie, c'est le combat politique le plus urgent et important. Donc oui, c'est certain.
Oui.
Mais voilà, après, je reste convaincue, et ça, je pense que c'est un message important à faire passer, le changement, il est politique. L'écologie est universelle. Moi, je dis toujours aux dirigeants d'entreprises qui refusent de se former parce qu'ils n'ont pas le temps. Je leur dis, mais si demain Paris était bombardé et qu'on vous faisait une formation d'urgence pour sécuriser votre entreprise, est-ce que vous me diriez non, j'ai pas le temps, je dois aller faire mon bilan comptable?
Mais tu sais quoi? Je suis persuadé que si vous demandez à la moitié des gens où est l'abri le plus proche de chez eux.
Parce qu'on n'est pas bombardé.
Eh ben moi, je sais pas. Mais oui, mais c'est toujours trop tard, on arrive toujours après la bagarre.
On arrive toujours après la bagarre. Mais là, la bagarre climatique, elle est en cours.
Je sais.
Vous savez combien il y a eu de jours de canicule à Toulouse l'été dernier ?
Une catastrophe.
Une catastrophe. Donc, on arrive à l'été, ça va être
terrible.
Mais même
là, l'hiver, la sécheresse d'hiver, bah, faut au secours.
Voilà.
Mais c'est intéressant qu'un livre assez pointu, quand même, soit écrit par une jeune femme qui est très détendue et en même temps, avec un vrai discours, une vraie pensée très intéressante et tout à fait du moment. Et moi, je suis très, très flippé. Il y a 25 ans, je regardais des bouts de banquise qui se cassaient la gueule et déjà, je me disais, la seule vraie chose qui me fait peur de toute ma putain de vie, c'est ça. Et en fait, 30 ans après, c'est juste
pire. C'est toujours ça.
Et donc, votre discours, il y a plein de gens qui l'ont eu dans d'autres manières et dans d'autres circonstances il y a déjà 30 ans et ça continue le bordel, en fait. Et c'est pire. Parce qu'il faut de la croissance, et dès qu'un pays veut de la croissance, qu'est-ce qu'il fait ? Il pollue.
Moi, c'est exactement ce que vous me dites qui m'a donné envie d'écrire ce livre. C'est que moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu parler de réchauffement climatique, j'ai acheté tout de suite, quoi. J'y ai cru.
Nous, il n'y avait même pas le mot. Hein.
Oui, j'imagine, encore plus.
Voilà.
Mais moi, j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, c'est le défi du siècle, voire de l'humanité. On est un type d'humain à raisonner comme ça. Mais on n'est pas tous comme ça. Et moi, ce qui me passionne, c'est que mon quotidien avec Coalition, c'est d'aller dans les entreprises, d'aller rencontrer des gens sur le terrain.
Mais ils vous demandent ?
Justement, et de voir, par exemple, des fonds d'investissement, des gens qui m'expliquent que la transition écologique, ça attendra, parce qu'avant tout, il faut faire de la croissance.
C'est dingue.
Et moi, je comprenais pas ces gens-là, parce que moi, ça a été tellement évident pour moi...
Mais il faut l'inverse.
...que je ne comprenais pas ces gens-là. Et en fait, c'est ça qui a motivé l'écriture de ce livre.
Et on arrive à les convaincre.
C'est comment on explique qu'il y ait des gens qui entendent les mêmes choses, parce qu'à un moment, on a tous quand même entendu une fois aujourd'hui.
Et qui disent, on s'en fout, faut de la croissance.
Voilà. Et donc, c'est toute la question des barrières mentales.
Et est-ce que vous arrivez à en convaincre un sur combien ?
Alors déjà, j'espère que ces gens-là liront mon livre, parce que j'espère
Il s'appelle le syndrome de la fourmi.
J'espère que les gens qui sont déjà écolos... En fait, souvent, malheureusement, on écrit des livres, etc., à destination des gens qui sont déjà convaincus. Donc moi, j'espère dépasser ce groupe d'individus.
Le problème, c'est quoi ? C'est que dans la tête des gens, écolo, c'est péjoratif.
Tout à fait. Moi, c'est pour ça que j'essaye de bâtir une écologie universelle et que j'essaye d'être le moins dogmatique possible pour dépasser justement les groupes sociologiques. Vous savez, en sociologie, on appelle ça les barrières mentales.
Les barrières mentales de l'inaction.
Les frontières symboliques. Moi, parfois, on me dit, mais c'est marrant, t'as pas l'air zadiste comme ça. Je dis, mais c'est quoi une zadiste ? C'est une femme qui a des dreadlocks ? C'est une femme qui a un sarouel ? Et en fait, c'est souvent... Enfin, l'habit fait le moine, en fait.
Heureusement
qu'il y en a. Malheureusement. Non, mais surtout, moi, peu importe comment une personne est habillée, j'écoute ce qu'elle a à me dire.
Oui, bien sûr.
Et en fait, malheureusement, dans nos sociétés,
non, mais c'est l'esprit,
l'habit fait le moine.
Ouais.
Et donc, moi, j'essaye de dépasser les jugements extérieurs qu'on peut avoir pour essayer de convaincre un maximum sur l'enjeu écologique.
Alors ma question, c'est, y arrivez-vous ? Parce que votre boîte existe depuis 4 ans, vous en avez fait des consultations, vous êtes allé voir des gens, vous avez vu des gens qui prient que de faire de la croissance. Enfin, vous avez
je me suis mal exprimé,
mais on a compris.
Bah, je crois qu'on y arrive parce qu'on arrive à...
Et comment tu peux, comment pouvez-vous convaincre quelqu'un qui a besoin de faire de la croissance pour sa propre entreprise, ses salariés, sa famille, ses enfants, mon cul sur la commode, comment est-ce qu'on peut arriver à le convaincre d'arrêter ?
Alors, on ne le convainc pas d'arrêter du jour au lendemain.
De réduire.
Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse, alors on devient un peu technique, désolé, on analyse un business model et on regarde quelles sont les zones d'impact de chaque activité. Et en fait, progressivement, on va créer des plans de transition entre le truc actuel et peut-être qu'il y a 30% de l'activité économique qui est beaucoup moins carbonée que le reste. Donc en fait, on va essayer progressivement de faire basculer l'entreprise sur des nouveaux modèles.
Je vous écoute.
Mais c'est peut-être pas le sujet...
Non, mais par exemple, j'étais en train de réfléchir, parce que peut-être vous avez vu mes yeux dans le vague, j'étais en train de réfléchir, c'est pour ça que vous pensiez que je m'en foutais pas du tout, j'étais en train de me dire, est-ce que mon métier devrait être décarboné ? Les studios de télé Ou est-ce qu'on pourrait décarboner ?
Ah, tout à fait,
j'imagine.
Oui, beaucoup. Déjà, par la mutualisation. Ensuite, il y a un gros problème dans les studios d'énergie, puisqu'il y a la clim toute l'année pour les lumières. Je connais ça parce que je suis sur BFM TV le dimanche et j'arrête de leur dire la clim. Et en fait, aujourd'hui, il y a un problème technique. Oui. On ne peut pas l'enlever, quoi.
Tout le monde ruisselle. On peut avoir que des gens qui sont brillants et dégoulinants.
Il y a une super entreprise qui s'appelle Imagine 2050 qui fait le même métier que nous, mais sur les métiers de la création culturelle.
Ah, okay.
Donc je vous invite à aller les voir.
Il y a toute une mission sur la décarbonation du cinéma, là, par exemple.
Bien sûr.
Ils sont en plein dedans.
C'est pareil avec la télé. Hein.
Ça va coûter une couille.
Et ouais, tout à fait.
Naboulna.
Tout à fait, mais à la fois. Et vous savez, il y a aussi la carbonation d'une activité. Mais il y a aussi le cœur d'une activité. Et le cœur de l'activité à la télé, c'est de passer des messages. Enfin, c'est de créer des contenus, quoi. C'est de divertir, de créer des contenus, de passer des messages. Et en fait, on peut aussi se dire qu'on a une impact carbone un peu trop élevé, mais que comme on a l'air toute la journée sur l'écologie, à la fin, on a un bilan qui s'équilibre. Mmh. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la télé, alerter sur l'écologie, même si on progresse, on n'y est pas encore.
Mais non,
on n'est pas encore au niveau.
C'est l'argent. Parce que dès qu'on fait un truc sur l'écologie, alors selon qu'il soit fait bien ou mal, l'audience
Les
gens regardent pas.
Moi, je suis convaincue que l'écologie, c'est un sujet qui est partout.
Mais moi aussi.
Ça veut dire qu'on peut parler de culture. Là, je regardais, il y a une actu avec le Mont-Saint-Michel qui est passionnante. Mmh. Il y a toute la question de la faune et la flore au Mont-Saint-Michel. Moi, j'adorerais regarder cette émission. Elle serait hyper populaire, qu'on découvre le Mont-Saint-Michel à travers la biodiversité qui le peuple.
Mmh.
J'adorerais. Ouais. Ça n'existe pas, ça, par exemple.
Vous parlez des touristes ? Non, je plaisante.
Ouais, je parle de... En fait, on peut traiter tous les sujets avec un angle écologique. Mais malheureusement, c'est ça qu'on ne fait pas. Et en fait, le problème de nos sociétés, c'est qu'on met tout dans des cases. Donc, quand on parle d'économie, c'est un sujet. Quand on parle de politique, c'est un sujet. Quand on parle d'écologie, c'est un sujet. Vous allez voir dans mon livre, il parle autant de culture que d'identité, que de politique, que d'économie.
Vous l'avez écrit toute seule ?
Qui m'aurait aidé ?
Non, je sais pas.
Ouais, j'ai pas les moyens d'avoir une
plume. Non, parce qu'il est bien écrit.
Ah bah merci, c'est gentil.
Il est même très sachant, genre.
Écoutez, c'est 2 ans de travail, donc j'y ai mis beaucoup
c'est
d'énergie.
C'est fou, hein, écrire un bouquin, c'est un truc de tâcheron, hein.
Mm.
C'est dur, hein.
Moi, j'adore.
Ouais.
En fait, c'est mon deuxième.
Ouais.
En fait, moi, comme je vois beaucoup de choses dans ma journée, j'ai vraiment besoin de le restituer. Donc, ça me permet... C'est aussi un exercice personnel.
Votre premier bouquin, c'était « Ma génération va changer le monde ». Il a combien de temps ?
Il a 2 ans.
Et alors ?
Et alors...
Je vous trouve super optimiste, mais heureusement.
Et alors, je pense que c'est vrai que ma génération va changer le monde. Je pense que toutes les générations changent le monde.
Encore
ça veut pas
plus,
dire...
Encore plus celle d'après, je pense.
Que ça veut pas dire dans le bon ou dans le mauvais sens.
Moi, je pense que ma génération, elle est naze.
Mais moi, ce que j'ai voulu dire avec ce titre, c'est que pour moi, il y a un clivage culturel profond. Par exemple, les moins de 40 ans ne sont pas devant la télé. En fait, on ne s'informe pas au même endroit. On ne réfléchit pas de la même manière. On n'a pas les mêmes urgences. On n'est pas alerté par les mêmes sujets. On n'a pas les mêmes aspirations personnelles, que ce soit au niveau familial ou professionnel. Et moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est écouter ma génération, parce qu'on est en train de réinventer tout. Et malheureusement, Il n'y a pas de vase communicant entre nous et la politique. Il n'y a pas de vase communicant entre nous et les médias. Très peu. Il n'y a pas de vase communicant entre nous et les postes de pouvoir dans les entreprises.
Mais c'est ouf, d'ailleurs, que les politiques ne fassent pas ne serait-ce que des commissions, tu vois. Oui, des commissions de gens comme vous, de 30 ans, qui donnent leur avis sur des sujets X ou Y. Mais sincèrement...
Moi, je ne suis pas, dans un parti politique à cause de ça.
Et je pense la même chose, par exemple, avec les autistes, qui ont des réflexes parfois extraordinaires sur tout un tas de choses.
Tout à fait.
Et il devrait y avoir des commissions d'autistes pour donner leur avis sur des choses très délicates sur lesquelles les politiques pourraient s'appuyer pour réfléchir.
Bah, si on savait utiliser, alors c'est un peu presque cynique ce que je dis, les autistes dans notre société,
bien sûr.
On s'en porterait tellement mieux.
Bien sûr.
Bien sûr.
Vous embrasse.
Merci beaucoup.
Flora Gebali. Le syndrome de la fourmi, c'est vraiment, c'est super intéressant de lire une femme de moins de 30 ans qui dit toutes ces choses de connaissance, parce qu'il y a un petit quand même, pas un risque, hein, l'inverse du risque, je sais pas comment on dit, mais de persuasion, donc c'est très intéressant.
Et ben merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt.
Et je chante même. De Chavez à ce copain. De Chavez à ce copain.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.